Vous écoutez RTL.
RTL 11h03, à la bonne heure avec vous Stéphane Bern. Bonjour.
Absolument, bonjour Olivia Le Ray. Et alors, tonnerre d'applaudissements dans notre micro alors qu'on vous retrouve à midi pour un nouveau point d'actualité parce que c'est Monica Bellucci qui fait son entrée dans le studio. Elle est magnifique. Bonjour Monica, elle est belle, elle est merveilleuse actrice. Je vais vous présenter dans un instant, chère Monica, mais c'est une joie de vous accueillir. On va parler de Mickey Road dans un instant.
Oui. Magnifique film.
Oui, merci. Formidable. Emir Kusturica, c'est pas le dernier des metteurs
c'est
en scène.
C'est pas le dernier.
Il débute pas, on va dire.
C'est pas le dernier pour la déconne.
Mais, ah non, ça, j'ai pas dit que c'était la franche déconne.
Ça arrive parfois.
Je vais vous proposer maintenant de vous présenter les autres participants. Il n'a pas fait beaucoup de voix au présidentiel, mais il a réussi la photo la plus remarquée des réseaux sociaux. Conclusion, quand on s'appelle Benoît Hamon, vaut mieux manger un kebab que proposer le revenu universel. On en parlera avec Cyprien.
Bonjour à tous, c'est vrai. Internet a ses raisons que la raison ignore. Et une photo de kebab peut être plus populaire qu'une photo de président.
Exactement. Il n'ose pas vous le dire, mais vous êtes un peu sa Vénus de Botticelli. La vie de Bellucci, VDB et VDB, c'est juste après le journal avec Régis Maillot.
Bonjour.
Bonjour à ça.
Bonjour, cher Monica. Mais évidemment, non.
Le micro qui a baissé. Un peu.
Je ne permettrai pas de croquer la vie de Monica Bellucci, plutôt croquer Monica, mais celle de Stéphane Bern. Ça sera la vie de Bern avec les meilleurs moments de la saison, par exemple.
Ah bon, déjà, les moments, bas morceaux.
les hauts morceaux.
On a beaucoup pleuré à la télévision ce week-end. Il faut dire que c'était le temps des au revoir, des adieux. Ça n'a pas échappé, évidemment, au zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour à tous. Bah oui, c'est vrai, le temps était très humide en France. Il a beaucoup plus en France ce week-end. Bien la télévision aussi, vous avez raison Stéphane. Tout le monde est parti, hein, ça y est. Hein. William Lémergie, Télématin, la coprésentatrice de BFM TV, Daphné Burki, la nouvelle édition. Tout le monde est en vacances ou parti. Et nous sommes encore là, en direct.
Mais c'est bien
parce que nous aimons nos
auditeurs. Bien. Et puis vous savez, en plus, il y a plein de bons films qui sortent le 12 juillet, dont On the Milky Road. Donc ça valait le coup de rester là. On terminera cette émission avec le test musical de Patrice Carmouze.
Et oui.
Consacré toute la semaine aux tubes qui ont enchanté nos étés.
Oui, pas toujours enchanté, mais enfin.
Les tubes de l'été, c'est quelque chose.
Et à la clé, il y a un superbe cadeau. Alors, téléphonez tout de suite au 3210 74 900 avec le code bonheur. Pourquoi ? Parce que, on vous propose un séjour dans un hôtel 4 étoiles, Thalasso, les Flamants Roses à Canet en Roussillon.
À Canet, les Flamants Roses, ça ne s'invente pas. Bravo.
C'est bien. Il y a la mer, il y a la piscine, il y a tout. Vous serez bien, vraiment. C'est un très beau cadeau. Qui est cher d'ailleurs, hein. Je ne vous donne pas le prix. Bah, mais
vous
la valeur,
en avez très envie,
non,
allez-y.
Ça ne se fait pas. Mais, c'est
quand on aime, on ne compte pas.
Oui. Allez, je vous présente maintenant. Ah oui, et puis à 11h40. Nous parlerons de la réouverture, non pas du Crayon, mais du Fouquet's. Il y a plein d'hôtels qui rouvrent, c'est Paris Palace.
C'est bien Stéphane, vous êtes allé non déjà?
Non, pas encore, mais je connais quelqu'un dans la maison qui est allé.
Ah. Et vous nous invitez pour le dîner de fin de saison là-bas?
Si vous voulez.
Mais plutôt à la rentrée.
Moi j'aurais préféré le Crayon.
C'est vrai.
Vous leur direz.
Les gars, ce sera l'hippopotamus.
S'il vous plaît, je vous présente notre invité, un peu de tenue. On la présente souvent comme une icône bellissima avec un visage de Madone, une beauté sculpturale, autant d'images qui figent une actrice et oublient la femme alors qu'elle se place résolument dans la lignée des Monica Vitti, Claudia Cardinale, Sophia Loren, Anna Magnani ou Gina Lollobrigida, éternellement jeune mais porteuse de drames, comme elle le dit dans ses Rencontres clandestines, un livre d'entretien publié à l'Archipel. Elle ne veut pas être enfermée dans un carcan de papier glacé, celui de l'actrice dont on vante en couverture des magazines la féminité, au fait de sa beauté, de sa gloire, alors qu'elle cherche avant tout, par ses choix artistiques, à se mettre en danger. Elle qui inspire le désir à des metteurs en scène de talent et qui, comme Sam Mendes, par exemple, la veut en James Bond Girl. Assurément, et elle en est convaincue, son nouveau rôle dans On the Milky Road avec et de Emir Kusturica, qui sera en salle le 12 juillet, va marquer un tournant dans sa carrière. Elle y incarne toutes les facettes de la féminité sur cette terre des Balkans éprouvée par la guerre et la folie des hommes, entre fiction et réalité, entre poésie et violence, mais qui dégage une telle force que le spectateur est immédiatement entraîné dans son histoire. On the Milky Road n'est pas un chemin semé de roses, ni une bluette sentimentale, c'est non seulement l'aventure d'un amour impossible dans un champ de ruines, l'incroyable épopée d'un film qui est tourné sur 4 longues années dans la maturation des rôles, autant que la métamorphose d'une actrice qui n'en finit pas de s'affirmer autrement que comme une belle gravure de mode, mais qui dévoile sa personnalité sensible et profonde, eh bien, elle est là avec nous ce matin, c'est Monica Bellucci.
Je peux partir parce que vous avez tout dit.
J'ai pas
qu'est-ce
tout
que je peux rajouter?
Mais si, parce que justement, vous avez plein de choses à dire et on le découvre chaque fois davantage. C'est que ça sédimente, tout ça. Puis c'est vrai que 4 années de tournage avec Emir Kusturica, hein. C'était long, c'était violent, c'était compliqué.
Bah, c'était un rendez-vous de tous les étés.
Oui.
Et je dois dire que chaque fois, je suis allée avec beaucoup d'envie, beaucoup d'excitation, parce que comme je dis toujours, Emir Kusturica, c'est un des artistes les plus éclectiques que j'ai connus. Et du coup, c'était vraiment enrichissant de travailler avec lui. Et je ne me suis jamais ennuyée.
C'est
important.
Ça, parfois, ça arrive.
C'est très important d'être toujours emporté par un projet et continuer à l'être pendant tout ce temps.
Alors, vous avez travaillé tous les étés. Mais je vous ai d'entrée de jeu, je vais vous faire une interview aux vacances quand même.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Monica Bellucci. Alors, vous avez été privé de vacances pendant quelques années. Et oui, parce qu'il fallait tourner chaque fois avec Emir Kusturica. Eh bien, justement, je vous ai fait une interview aux vacances. Vous aimez les planifier longtemps à l'avance ou au contraire, c'est au dernier moment?
Au dernier moment.
Oui. En même temps, il y a des filles, donc il faut quand même organiser un peu.
Oui, mais oui. J'organise pas beaucoup en avance. Hein. Un mois en avance.
Vous préférez la mer ou la montagne?
La mer.
La mer, oui.
La plage, la mer, le soleil.
Et vous emportez un scénario à lire à la plage ou non?
Ça peut. Farniente. Ça peut. Mais j'aime aussi comme ça lire des livres ou être avec mes enfants ou voilà des amis, etc., etc.
Vous êtes sportive?
Non.
Pas du tout.
Non, pas du tout. Je fais un peu de pilates, je nage, mais voilà, non, le sport c'est pas une priorité.
Vous protégez des coups de soleil comme toutes les actrices ou...
Ah oui.
Oui.
Mais non, avant quand j'étais jeune, non. Je ne me protégeais pas du tout. J'étais tout le temps bronzée. Et aujourd'hui, non, je ne fais plus attention parce qu'il y a un moment où il faut faire plus attention.
Vous savez, il y a cette cagoule là, chez les Japonais qui est si charmante.
Non,
on a l'impression qu'on fait des braquages sur les plages. Ils ont des cagoules en latex pour se protéger en fait du soleil.
C'est dommage ou ça?
Non, c'est vrai.
Mais il faut prendre le soleil un peu. Vitamine D, c'est important.
Oui.
Petit burkini.
Un burkini de visage.
Il faut prendre le soleil, ça fait du bien.
Est-ce qu'en vacances, vous faites très attention ou vous vous lâchez un peu sur la nourriture?
Ah, même toute l'année. C'est une lutte de l'année, ça, c'est pas que l'été. Moi, j'adore manger. J'adore. Si on me demandait qu'est-ce que c'est ton désir le plus grand, manger tout ce que je veux et rester aligné. C'est compliqué. On n'y arrive pas.
On aimerait bien, non, mais c'est pas possible. Oui. Est-ce que vous vous ennuyez au bout de quelques jours de vacances ou ça peut durer
Non, mais la nuit, je m'ennuie très rarement. La nuit, c'est pas un de mes problèmes.
C'est bien de ne pas s'ennuyer. Vous aimez regarder les touristes et se moquer un peu d'eux?
Mais je crois que les panoramas humains, c'est la chose la plus intéressante.
Oui, c'est voir le comportement des gens.
C'est les nôtres aussi, hein, parce qu'on fait partie de ça.
Et comment vous faites pour rester discrète, un petit peu connue quand même?
J'ai fait attention.
Oui. Elle vous dira pas où elle va.
Déjà. Ni son secret.
Voilà, exactement. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un GPS ou vous demandez votre chemin? Vous n'hésitez pas à demander votre chemin. Bonjour.
Bonjour, je voudrais savoir s'il vous plaît la rue.
Les gens seraient contents.
Moi, ça m'arriverait face à
Monica. Il y a des gens en vacances qui refusent absolument de demander leur chemin. Ils veulent le retrouver, ils se perdent.
Patrice, vous parlez de vous, là,
en fait? Alors, expliquez-nous, Patrice.
C'est une question d'orgueil.
En vacances, vous aimez vous perdre. Oui.
Non.
Il y a trop d'orgueil pour demander
vacances. Qu'est-ce que vous faites en vacances que vous ne faites jamais l'année?
Qu'est-ce que je fais? Rien.
La grasse matinée.
Justement, déjà.
Et la grasse matinée,
peut-être. Dormir, pas de téléphone tout le temps, pas de... Tu ne peux pas appeler tout le monde, et tout le monde peut t'appeler. C'est bien.
C'est bien.
On rentre dans un autre rythme. Ça ne dure pas longtemps, mais...
Le sevrage du téléphone portable pendant les vacances. Ça, c'est la première règle. En tout cas, on va retrouver Monica Bellucci dans un instant. On va parler de ce superbe film d'Emir Kusturica qui sort le 12 juillet, On the Milky Road. Voilà, on va savoir pourquoi ça s'appelle de Milky Road, la route du lait.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Monica Bellucci pour la suite d'À la bonne heure. On va parler justement du film de... Alors on dit Emir Kusturica.
Ça, oui. Pas on écrit Kusturica, mais on dit Kusturica.
Oui. Alors c'est à la fois la route du lait, en 2000 qui rôde, mais c'est aussi une sorte de voie lactée, parce que comme souvent chez Kusturica, la violence de la guerre se mêle à la poésie et au rêve. Il y a quelque chose d'assez onirique. Parfois, il y a des choses qui sont héritées de la fiction et d'autres qui sont, au contraire, une terrible vérité. Vous êtes Nevesta, une réfugiée italienne qui se trouve au cœur de ce qu'on a appelé les guerres dans l'ex-Yougoslavie au début des années 90. Et vous parlez très bien le serbe dans le film.
Dans le film, justement. Oui. Ça, c'est bien de dire ça. Oui. Dans les films, je parle serbe parce que, justement, les rôles écrits pour une femme serbe qui ont dit d'origine italienne pour justifier dans les cas où il y avait l'accent. Et Mirkos ça a dit que mon serbe est bien.
Bon,
du coup,
bien.
Voilà, ça m'a fallu du travail, un coach, tout ça.
Ouais, c'est incroyable. Hein.
Bien sûr. Mais c'est bien. Quand on rentre dans un autre univers et quand on travaille avec Kusturica, il faut nous rentrer dans son monde.
Il faut s'oublier.
Voilà, il faut s'abandonner. Ouais. Mais c'était un parcours intéressant pour moi de me retrouver pour quelques temps dans cette terre qui est belle mais aussi triste. Parce que
cela dit, les paysages sont sublimes.
Oui. Les paysages sont...
Mais il y a encore les stigmates de la guerre. Partout, quand vous vous promenez, c'est incroyable, il y a toujours des bâtiments qui sont...
Ouais, qui sont éventrés.
Tout récent. Et la guerre était 90-94, mais c'est vrai que c'est tellement compliqué de jouer de l'extérieur parce que c'est une terre qui a eu tellement d'ethnies différentes qui ont colonisé cette terre. Du coup, c'est vraiment difficile de regarder tout ça et être objectif par rapport à cette histoire. Et tout ce que je fais, moi, c'est vraiment approcher ces projets d'un point de vue humain, artistique, mais jamais politique. Mmh. Et du coup...
C'est plus prudent, hein, parce qu'on ne sait jamais.
Et du coup, voilà, je travaille avec cet artiste, oui, qui est Mirko Sorica, qui m'a mené dans son monde et ces films, comme vous dites encore, il y a cette dualité qui est présente un peu toujours dans les films de Kusturica.
Oui, parce qu'il y a des choses qui se sont passées sur le tournage, des choses vraies qui sont mises dans le film. Il y a des choses de la réalité qui deviennent de la fiction.
Mais parce qu'en effet, c'est tiré... Les films sont trois histoires différentes qui se croisent. Et c'est une histoire vraie. Par exemple, mon personnage, c'est l'histoire d'une femme qui veut se cacher, qui veut se marier et qui est dans un camp de réfugiés, parce que c'est une femme qui échappe à un homme qui est un général qui était très puissant, qui la cherche pour la tuer, parce que justement lui, il avait tué sa femme pour elle, et alors mon personnage l'a dénoncé, et à cause de ça, lui, quand il sort de prison, parce qu'il est très puissant, du coup, il arrive à sortir de prison, il la cherche pour la tuer. Et du coup, c'est la vérité. Et du coup, la vérité transportée en fiction.
En tout cas, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Vous tombez amoureuse de Kostav et Kostav.
Ça veut dire
que
quand on trouve ce personnage, elle est dans un camp de réfugiés, et il y a une jeune serbe qui veut l'acheter pour la donner à marier à son frère qui doit retourner de la guerre. Oui. Du coup, elle se retrouve dans une famille complètement folle. Mmh. Et là, elle rencontre cet homme, Kostav, joué par Emir Kusturica, qui vend le lait pour survivre pendant la guerre, mais il a perdu toute sa famille. Et du coup, ni mon personnage ni les personnes du Costa, c'est des gens qui ne sont plus jeunes, qui ne s'attendent plus rien de la vie, qui viennent d'un passé tourmenté. Mais les moments où ils se rencontrent, il y a quelque chose d'absolument magique. Il y a un cours entre la vie et la mort qui commence. Et on aura des moments d'aventure, des violences, des morts, mais aussi d'extase. On est dans le monde de Kusturica.
Mais vous dites que ça a été un tournant. Il y a par exemple une phrase dans le film que vous pourriez reprendre à votre compte. Vous dites « Je suis la fille que j'ai été et la fille que je ne suis plus ».
Voilà.
C'est le principe des
métamorphoses.
C'est
la transformation.
Ouais. Oui, la transformation.
Non, moi je crois que la vie est faite des cycles. Et on voit, tout ça dépend comment on arrive à faire les passages. Les passages, des fois, sont durs.
Et là, c'est un passage qui est plutôt...
Mais ça, c'est un passage plutôt beau. Même si la fin a un côté aussi tragique et poétique, mais quand même, voilà, disons que ces gens cherchent de fermer les temps dans le processus d'éternité. Et c'est, il y a beau parce qu'il y a beaucoup de métaphores dans les films, non? On cherche, il y a ces moments où on cherche de détruire la montre, comme si on voulait fermer les temps, mais on ne peut pas fermer les temps.
Non. Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Et nous sommes toujours avec Monica Bellucci pour le film d'Emir Kusturica, avec Emir Kusturica, On the Milky Road, qui sort le 12 juillet. Mais maintenant, c'est le moment de retrouver Cyprien Signy.
À la une, le web de Cyprien Signy.
Alors, pour une fois ce week-end, Cyprien, on a beaucoup parlé des trains qui arrivent à l'heure.
Oui, ça vous fait plaisir, visiblement. Oui. Du coup, on a oublié ceux qui sont en retard. Ça ne vous a certainement pas échappé. Tous les médias vous ont parlé des deux nouvelles lignes TGV.
Oui.
Paris-Rennes et Paris-Bordeaux. Paris-Rennes en 1h25 et Paris-Bordeaux en 2h04. Formidable inauguration. Il y avait Emmanuel Macron, Nicolas Hulot. Mais ce week-end, sans politique, ce coup-ci, il y avait aussi l'inauguration de la nouvelle ligne Paris-Toulouse, la LGV Océane, qui met Paris à 4 heures de Toulouse. Événement, c'était hier matin, donc à 8h59. Les passagers avaient pris place dans ce nouveau train pour ce voyage inaugural, le premier de l'histoire. Départ donc à 8h59, les passagers sont arrivés à Toulouse à 18h30. Oui. Au lieu de durer 4 heures, le trajet a finalement duré 9h30. La faute à un problème technique sur le train d'avant qui restait bloqué sur les voies. C'est ballot pour le voyage inaugural.
Ça va être bon partout. Ils ont réussi les deux autres.
Bah, voilà. Alors après, ça reste quand même une performance épatante de la SNCF qui, pour le lancement du Paris-Toulouse en 4h20, s'offre un retard de 4h40.
Ah oui, c'est bon.
Ah, c'est bien.
Oui, mais c'est aléatoire, le TGV. Ah, bah, vous savez. Bon.
C'est bien ça le problème.
Sauf les tarifs.
Mais c'est pas sa faute. Hein. C'était un autre train qui était en panne.
Oui, c'est plus TGV, on
oui, c'est inouï.
Ouais, c'est inouï. On parle de retard inouï.
La performance est inouïe.
Ouais, exactement.
Ouais, ils ont bien choisi leur nom. Hein.
On a trouvé le plus vieux dentiste du monde.
Oui, il a 130 000 ans. Néandertal, ça vous dit quelque chose?
J'en rire.
Eh bien, des chercheurs de l'université du Kansas aux États-Unis ont découvert, en étudiant les dents d'un Néandertal, qu'il avait cherché à se soigner les dents tout seul, comme s'il était un peu dentiste, voire orthodontiste, puisqu'il a aussi cherché à se les aligner. Ils ont constaté des éraflures sur 4 prémolaires, preuve, selon eux, que l'individu avait poussé quelque chose contre ses dents pour les faire tourner. Ils ont également constaté des rainures, des dents striées. Pour eux, cela ne fait aucun doute, ses dents ont été manipulées. Et alors, c'est une petite révolution dans le monde des dentistes, car jusqu'à présent, la plus ancienne trace d'opération dentaire remontait à 14 000 ans, où l'on a établi qu'un Homo habilis, notre ancêtre d'il y a 14 000 ans, avait utilisé un silex pour forer une dent abîmée. En revanche, niveau anesthésie, on a encore quelques doutes sur la méthode.
C'était l'ancêtre de Joe Star.
C'est un peu préhistorique.
Comment il le faisait? Alors, parce qu'il n'y avait pas de miroir à l'époque.
Mais non. Bah, je pense qu'il y avait un copain qui lui disait tout. Ouais. Je sais pas, hein, j'imagine quoi.
Peut-être qu'il s'est vu.
C'est bon d'avoir un vieux copain.
Il n'y avait pas d'anesthésie non plus.
Il y a 14 000 ans comme vous.
Maintenant, avec la laine qu'il devait avoir, il ne devait pas avoir beaucoup de potes.
Ça devait être violent. Regardez.
Encore un mystère des réseaux sociaux.
Ah oui, car les réseaux sociaux sont toujours épatants quand il s'agit de faire d'un non-événement quelque chose d'incroyable. Alors je vous explique. Jeudi dernier, l'Élysée dévoilait et diffusait la nouvelle photo officielle de notre président Emmanuel Macron. Magnifique photo, il est très beau. Une diffusion. Une diffusion qui s'est faite. Ah bah oui. Hein, Stéphane,
une diffusion
qui s'est faite
mais
via
j'en joue. Évidemment, j'en joue maintenant.
Donc la diffusion s'est faite via les réseaux sociaux et notamment le réseau social Twitter. Là, comme une nuée de poudre, la photo était partagée par beaucoup d'internautes. Et 10 minutes plus tard, sans vraiment de lien de cause à effet apparent, Benoît Hamon, lui, l'ex-candidat socialiste à la présidentielle, postait sur le même réseau social, Twitter, la photo d'un vieux sandwich kebab frites harissa entamé dans sa boîte orange avec ce commentaire « J'ai craqué, fin, zéro régime ». Eh bien, vous savez quoi? Sur les réseaux sociaux, la photo du kebab a éclipsé la photo du président. Oui, le kebab plus fort que Jupiter. Sur Twitter, la photo du sandwich a été 2 fois plus partagée que la photo du président, qui garde tout de même l'avantage sur Facebook, hein, faut lui reconnaître. Après, j'ai pas vraiment d'explication rationnelle sur l'origine de ce match improbable.
Une métaphore, non, du Parti Socialiste, oui, j'ai craqué.
Voilà, si vous voulez.
C'est juste un signe de désespoir.
Moi, je dirais que oui, le Parti Socialiste est parti en sauce blanche.
Voilà. Ouais, c'est un vrai problème de notre société quand même. Le kebab fritari, ça qui a battu le président. Ce qui est certain, c'est qu'à la question de savoir si le kebab était bon, Benoît Hamon a dû répondre hier sur France 3. Il a répondu d'un laconique « Je l'ai mangé ».
Merci beaucoup Cyprien Signy. On va retrouver Monica Bellucci dans un instant. Continue à parler du film d'Emir Kusturica, On the Milky Road, qui sort le 12 juillet. Puis on va essayer d'en savoir un peu plus sur elle dans un instant avec C'est vrai que.
Vous écoutez RTL.
L'interview, c'est vrai que...
qui sait.
Vous dites, Monica, que vous avez été deux fois maîtresse de cérémonie à Cannes, et cette année, en 2003 et cette année, et vous dites que vous êtes très attachée à ce festival de Cannes, parce que sans lui, votre parcours n'aurait pas été le même. De quelle manière ?
Déjà parce que j'ai appris énormément. Oui. Et en plus parce que ça m'est arrivé beaucoup de fois de faire des films qui étaient présentés à Cannes,
oui.
En compétition, hors compétition. Je suis allée autant que maîtresse des cérémonies, je suis allée autant que jurée. Voilà, du coup, c'est un passage de cinéma à travers lequel voilà, mon parcours a pris une autre route.
Et ça reste toujours aussi impressionnant à chaque fois, Cannes ?
Toujours.
Ouais.
Toujours impressionnant de faire... de présenter un film, parce que quand on présente un film, on ne sait jamais comment il est reçu.
Bien sûr.
Et même quand on fait la maîtresse des cérémonies, tu ne sais jamais comment tu vas te retrouver et comment tu vas vivre ces moments où un jury aussi, tu regardes 3 films par jour. Du coup, moi, je ne suis pas un journaliste et métaboliser autant d'informations sur une journée, ça fait beaucoup. Et je suis habituée plus à être jugée qu'à juger.
D'autres questions ?
Oui, au début du film de Michel Giraud, vous regardez Quand passent les cigognes, hein, qui est, je crois, le film préféré de Kusturica. On vous voit regarder ce film. Mais vous, votre film préféré, ça serait plutôt Une journée particulière des Torrescola. Vous...
Moi, j'adore ce film.
Ah, c'est formidable.
Ah, c'est magnifique, oui.
C'est magnifique, avec une Sophia Loren mûre.
Ouais.
Et qui fait justement le rôle d'une femme... qui ne peut pas vivre sans les hommes. Un moment où les femmes n'avaient aucun droit.
Aucun droit,
ça,
oui.
Voilà. Ça se sent que c'est une femme de famille. Une
elle
femme
reste
qui,
d'ailleurs chez elle, voilà. Elle est culottée.
Et devant un homme dont il ne comprend rien, joué magnifiquement par Marcello Mastroianni, il est magnifique dans le film. C'est un des plus beaux films d'Ettore Scola.
Ouais.
Et voilà, et du coup, c'est vrai que je suis attachée à ces cinémas-là aussi. Disons, c'est le cinéma italien, c'est le cinéma
de Fellini aussi,
oui. Fellini, Visconti, non, toute l'histoire, Rossellini, et voilà. Du coup, c'est, disons, un cinéma qui a fait école à tout le monde. Je dois dire, même avec Emir Kusturica, je me suis demandé pourquoi elle m'avait choisi, quelque part. Et pourquoi une actrice italienne ? Et moi, je pense aussi parce que il est amoureux du cinéma italien.
De ce cinéma-là.
Je crois que le cinéma italien, c'est son inspiration. Et peut-être qu'il a choisi une comédienne italienne à cause de ça.
Il y a un nouveau cinéma italien ?
Oui, ça peut se poser la question.
Moi, je pense que oui.
Oui.
Je pense que...
Parce qu'on reste toujours un peu sur cette époque.
C'est vrai. Mais si on regarde Sorrentino, Garrone, voilà, il y a des nouveaux metteurs en scène qui ont un chemin international. Même, moi, j'étais allée à Cannes avec les films d'Alice Rockwacker, qui est une jeune réalisatrice avec beaucoup de talent.
On en avait parlé ici.
Je pense que c'est vrai. Je pense que les problèmes est toujours, comme j'ai dit toujours, économique et politique, mais les talents est là. Oui. Mais c'est vrai que par rapport à la France, on fait tellement moins de films. Et du coup, de trouver des jeunes metteurs en scène qui font des premiers films et qui ils peuvent montrer leur talent et qui peuvent évoluer après, c'est un peu plus compliqué qu'en France.
D'autres questions ?
Alors, vous n'êtes pas du genre à regarder la longueur d'un rôle avant de l'accepter ? Vous pensez qu'il vaut mieux un rôle court, mais bon, plutôt que long et poussif. C'est vrai ?
Écoutez, c'est pas une question de minutage. Moi, je pense qu'on peut travailler 4 ans pour faire un rôle, pour faire un film de 2 heures, comme celui-là de Mirko Sorica. Ça m'est arrivé de faire 5 minutes dans un film, comme quand j'ai travaillé avec Rebecca Miller. Là, dernièrement, j'ai fait un moment avec la série de David Lynch, Twin Peaks. Mais quand j'ai envie de rentrer dans un univers de metteur en scène que j'admire et que je sens que même pour très peu de temps, mon travail de comédienne est respecté. Voilà.
Oui, Monica, quand vous étiez enfant, vous étiez déjà très belle, mais vous viviez mal, paraît-il, le regard des garçons et même des autres femmes. Vous vous sentiez presque honteuse de cette beauté.
Mon Dieu, mais on fait des romans.
C'est ce qu'on nous dit.
Vous vous cachiez de temps en temps.
Même maintenant, je me cache. Il y a des moments où je me mets à la lumière, comme ici, comme à Cannes, ou comme après des moments où je suis complètement dans l'ombre et je me ressource.
D'accord.
C'est normal, on ne peut pas vivre tout le temps dans la lumière. La lumière est belle, mais il est fatigante aussi.
Alors attendez, on a un autre roman, parce que ça aussi, on va voir si vous confirmez ou pas. Ah oui, vous auriez déclaré un jour que si vous n'aviez pas fait ce métier, vous vous seriez marié à un type de votre village, vous lui auriez donné 3 enfants, et ensuite, vous vous seriez suicidé. Il faut donc mieux que vous soyez devenu artiste.
Oh mon Dieu.
Heureusement. Vous avez vraiment déclaré ça ?
Je ne suis pas restée. Non, disons que peut-être que je viens d'un parcours des femmes autour de moi, des femmes tellement belles, douces, généreuses, maternelles, où disons la maternité était presque un devoir oui. ancestral. Et voilà. Du coup, une partie de moi est sûrement ces femmes-là,
oui.
mais toute une autre partie.
Oui, non, parce que le suicide, on est pas jusque-là.
Hein. On a une pensée.
Et quand je
pour,
vois que c'est pas les bonnes situations, je fais goodbye.
On a une pensée pour le. Oui, pour Pépone qui est resté au village.
Il est resté au village.
Vous écoutez RTL.
La bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Monica Bellucci. Est-ce que vous avez à Paris des hôtels préférés? Ou pour
oui,
les interviews, on sait que.
Moi j'aime bien, on peut dire les
oui,
noms.
Oui, bien sûr, il faut en donner 3, c'est tout.
Ouais, ça fait 3 qui nous inviteront après, alors allez-y.
Oh, j'aime bien l'Écosse, j'aime bien les Royal Monceau.
Oui.
Non, les Crillons, non ?
Oui, qui rouvre cette semaine, bientôt, mercredi.
Bientôt,
eh bien, je vais vous en proposer un autre, un nom mythique, c'est le Fouquet's. Et nous avons au téléphone Géraldine Daubé. Bonjour Géraldine.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Voilà, alors bonjour. Vous êtes la directrice générale du Fouquet's Paris. On en a parlé ici il y a quelques semaines à cause de la vente aux enchères des meubles et de la vaisselle du Fouquet's. Et oui. Là, vous avez réouvert l'hôtel et la brasserie il y a quelques jours à peine, le 1er juillet. En fait, vous avez fait peau neuve.
Nous avons fait peau neuve, nous avons ouvert la partie hôtel ce samedi.
Oui.
Et la brasserie, ça ouvre lundi le 10 juillet.
C'est la célèbre brasserie Fouquet's, c'est-à-dire le Fouquet's, celle qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà. Et qui a
exactement.
Fait. Et là où le lieu de rendez-vous du cinéma français depuis toujours. Alors, en fait, l'hôtel, il est tout récent, il a 10 ans. Il fallait déjà qu'il fasse peau neuve, il fallait déjà le refaire.
Oui, mais 10 ans, c'est un cycle assez naturel dans la vie d'un établissement. C'est courant dans notre métier et aussi pour une maison d'un standing comme le nôtre. Mmh. Donc les tendances aussi, ça évolue et encore, je dirais, plus vite aujourd'hui. Donc il faut savoir se réinventer, apporter de la nouveauté, mais toujours sans oublier qui on est.
Oui, alors vous avez fait appel au célèbre décorateur Jacques Garcia. Il dit le Fouquet's, c'est un peu comme une femme du monde. Elle aime bien changer de tenue.
Ouais, c'est un lifting plutôt.
Oui, c'est ça, il faut venir voir parce que nous avons changé, en effet, nous avons changé de tenue. Mais c'était notre choix de continuer à travailler avec Jacques Garcia. C'était un choix tout à fait naturel parce que le lien en fait qui unit Jacques Garcia et le groupe Daria sont très forts.
Mmh.
Nous avons travaillé avec lui aussi sur le projet en 2006 pour l'ouverture de l'hôtel. Et donc, il nous a semblé naturel de faire appel à Jacques et à son talent encore une fois.
Il y a beaucoup de rouge.
Non, les couleurs dans les chambres sont vraiment très claires. Et dans la partie lobby, quand on arrive, en effet, nous avons des couleurs plutôt de mauve, un petit peu très feutré, un petit peu de rouge, en effet.
Non, mais Patrice Carbouze demandait s'il y avait beaucoup de rouge au bar. C'est ce qui l'intéresse.
Non, il y a du blanc aussi.
Quelles sont les nouveautés un peu dans les chambres?
Oui.
C'est ça qui nous intéresse, parce que vous parlez de relooking.
Oui, parce que nous, on n'ira jamais, en fait.
Donc, faites-nous rêver.
Si on nous invite...
Vous habitez Paris, on ne va pas dormir. Vous allez
Oh, bah si, moi, je veux bien être touriste à Paris.
Pour les 5 à 7 uniquement, mais voilà. Faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a dans ces nouvelles chambres? Ou suites, plutôt?
Alors, dans les suites, nous avons quand même des grands espaces. Donc, ça existe toujours, ça a toujours été. des très beaux volumes. Nos plus longs chambres, les plus petites en fait, sont juste en dessus des 40 mètres carrés.
Ah oui. Et nous avons il y a des miroirs au plafond.
Oui, parce que ça, c'est la petite coquetterie de Stéphane.
J'adore ça.
Je ne sais pas pourquoi il aime les miroirs au plafond.
C'est la suite SB, ça.
Voilà. Les ailes avec les menottes. Vous le demandez.
Ah, d'accord.
Vous le demandez. Tout est possible.
On peut avoir
des
sur-mesures. Oui. Vous le faites, ça
c'est... Ah ben, on fait des sur-mesures. Hein, tout est possible.
Les clients sont exigeants, par exemple?
Les clients, naturellement, c'est une maison de... C'est un hôtel de luxe, une maison de standing, donc les clients, à juste titre, sont exigeants.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus extravagant, dites-nous?
Le plus extravagant, je pense que tous nos clients, ceux qui cherchent, ils ont déjà un emplacement de rêve, donc ils ont aussi une expérience qui est très authentique. C'est quand même un hôtel et un groupe qui est 100% français. Donc tout ce qu'ils trouvent ici...
C'est bien de lire la plaquette, là. Mais...
Sauf l'été, il devient saoudien. Mais bon,
ils ont besoin de fraîcheur.
Non, ils ont besoin de fraîcheur, bien sûr.
Bah oui.
Et puis, alors, il y a le quartier des hommes, quartier des femmes, et puis comme ça...
Ah, c'est bien. Ah, oui. Tout le monde se retrouve le soir, c'est ça qui est chouette.
Oui, mais discrètement, dans les chambres.
Il y a une suite, Cécilia, ou pas?
Et est-ce que... Au fond, parce que la vraie question, il y a de plus en plus de palaces maintenant à Paris, et c'est vrai qu'il faut se mettre aux normes palaces, et pour autant, on dit que le tourisme baisse. Alors, comment vous allez résoudre cette équation?
Alors, il y a de plus en plus de palaces à Paris, il y a toujours un offre. Paris, ça reste quand même une destination, la première destination mondiale, donc c'est normal que nous ayons les plus beaux hôtels, des plus belles établissements sur Paris. Et Phuket en fait partie. Les tendances pour l'été sont très encourageantes.
C'est-à-dire le Chinois revient? Est-ce que le Chinois revient? C'est la question qu'on se pose tous.
Les Américains reviennent. Les Américains
ça, c'est bien.
Reviennent. Welcome. Et puis vous, visiblement, tout le monde parle bien les langues, alors ce qui n'est pas le cas ici dans l'émission. Merci en tout cas Géraldine, bravo.
Et
on vous souhaite une très bonne ouverture.
Et on viendra, n'insistez pas. On viendra.
Absolument. N'insistez pas. Merci beaucoup, bonne journée et bonne chance alors au nouveau Phuket's qui ouvre cette semaine. Allez, on va retrouver Éric Dussard et son Zapping Télé.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, je sais que vous avez les yeux humides.
Ah oui.
On va commencer avec les adieux du week-end.
Est-ce qu'il y a une allergie, certainement?
Ou une conjonctivite? Mais non, mais c'est vrai qu'il y a eu vendredi du pot de départ à la télévision. Ouais, ouais. Puis alors, ça a encore plus chouiné qu'un concert de Mylène Farmer. Premiers adieux, ceux de William Lémergie. Vous savez qu'à la rentrée, il part sur la chaîne C8. Vendredi, il a donc présenté son tout dernier télématin.
Entre vous et moi, maintenant, ça fait presque 40 ans de vie commune, ici à Antenne 2, puis France 2, dont 32 de télématin, c'est pas rien. Cette longue... liaison, je suis pas prêt de l'oublier. Au fond, vous et moi, nous sommes des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. C'est vous dire à quel point vous allez me manquer. Alors à bientôt, sûrement, et encore et toujours, merci d'avoir été là si souvent.
Je m'en vais, je m'en vais.
Voilà, William Lémergie nous a fait une Vianney, mais alors vous avez vu que son remplaçant, qu'on attendait seulement au mois de septembre, n'a pas traîné, puisque Laurent Bignolas, nouveau présentateur de Télématin, a pris ses fonctions déjà ce matin. Il était là, sans annoncer à qui que ce soit. Ils ont dû être surpris à la sécurité. Il n'avait pas son badge encore, à mon avis. Il a commencé à présenter Télématin dès ce matin, ce qui n'est pas idiot, puisque du coup, il aura pris ses marques avant même que tous les journalistes ne lui tombent dessus et l'attendent au tournant. Donc voilà, ça y est. Il est en place, se remplaçant Laurent Bignolas à Télématin. Alors, on a aussi assisté vendredi à la fin d'un duo qui réveillait les téléspectateurs de BFM TV depuis 7 ans. Christophe Delay a dit au revoir à sa coprésentatrice Pascale de la Tour du Pin, qui, elle, part pour la matinale d'LCI.
Première édition revient lundi et reprendra à la rentrée sans toi, sans Pascal, voilà. Qui part pour une nouvelle aventure.
C'est pas facile, voilà, une nouvelle aventure. C'est un déchirement aussi pour moi de quitter cette famille. C'est 7 ans que j'ai passé avec toi. Oui, j'ai choisi, c'est vrai, parfois il faut faire des choix dans la vie, voilà, d'essayer de relever de nouveaux challenges. Merci pour toi pour m'avoir accompagné, m'avoir fait grandir. Je suis à tes côtés, c'est un vrai plaisir.
Je m'en vais, je m'en vais.
Encore une Vianney, encore un check-out. Et vous remarquez Christophe Delay qui lui précise quand même, mais tu as choisi. Ouais. Donc, genre, non, je
tu m'as quitté. Voilà,
exactement.
J'aurais mieux fait de faire le Gainsbourg, non? Je suis venu lui dire que je m'en vais. Ah,
oui. Alors, Pascal de la Tour du Pin qui sera remplacé à la rentrée sur BFM TV par notre copine d'RTL, oui, Adeline François. Oui. Alors, on souhaite bonne route à Adeline qui part présenter cette matinale de BFM. Elle n'a pas. Mais c'était limite.
Ah, si,
c'était
limite. Quand Yves Calvi lui a dit au revoir vendredi matin, il lui a fait un joli mot, un joli message et elle avait les larmes aux yeux.
C'est vrai.
Adeline François, on pense à toi Adeline, pense à nous aussi. Merci de m'offrir quelques extraits de zapping s'il te plaît. Ce serait adorable. Donc voilà, beaucoup de larmes sur France 2, sur BFM TV, sur C8 aussi avec le départ de Daphné Burki. Mais alors le summum de l'émotion a été atteint vendredi soir à la fin de Thalassa.
Ah ouais.
Quand Georges Pernoud a lui aussi fait ses adieux et là, on l'a senti véritablement bouleversé.
Alors je vous dis simplement merci. Bon vent.
Et c'est tout.
Salut.
Je sens bien que Georges, il en avait ras le casier homard. Hein, il a bien envie de se marier.
Ah, malin.
Attends, 42 ans à la tête de Thalassa, 1074 émissions, il doit te donner des allergies aux poissons. Hein.
Le marin ne parle pas pour rien. Hein.
C'est un taiseux.
Ouais. C'est pas économe.
Puis c'est enregistré en plus.
Ça a été enregistré à Saint-Malo il y a quelques semaines.
Vous pouvez couper les pleurs.
Il y a moins d'émotions.
C'est une œuvre.
Juillet, c'est la
bon
saison.
Vent, on va souhaiter bon vent à Georges Pernoud quand même,
oui,
Stéphane.
Bon vent. Hein,
ah bah oui, c'est sûr.
Et pour l'occasion, on va écouter celui qui lui avait rendu un très bel hommage dans son spectacle. C'est l'humoriste Jérôme Commandeur. Hmm. Il en parle très bien de Georges Pernoud.
Voilà, je suis allé voir un grand spécialiste du poisson qui s'appelle Georges Pernoud. Tout le monde connaît Georges Pernoud. Qui est animateur de Thalassa. C'est un mec en pull gris qui te montre des reportages sur des bonnes femmes qui broient du poisson en main nue au Léron, t'en as rien à foutre. Mais bon, peu importe. C'est un mec bien. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, le Poiscaille, c'est marrant comme. Non mais d'en faire le fer de lance de sa vie, là, c'est pas. C'est un anniversaire. Son oncle, il a ouvert une huître, le gamin s'est mis à bander. Je sais pas. Mec très gentil en tout cas, Georges Pernoud, t'as là ça. Bon, très gentil, il a tendance à rediffuser un peu. Ça m'énerve parce que les gens de télé nous prennent pour des. Et on l'a déjà vu celui-là. Non. On l'a déjà vu ce reportage-là, sur la. Non, si, il n'y a plus beaucoup de 4L en France, Georges.
C'est pas faux, c'est-à-dire. Thalassa qui devrait faire peau neuve à la rentrée avec une nouvelle présentatrice, ça s'appelle Fanny Agostini. Et jusqu'ici, elle était Miss Météo sur BFM TV.
Très jolie. Très jolie, ouais. Joli, oui.
Et très sensibilisée à ces questions d'écologie.
De poissons.
Oui, de poissons. À elle de nous parler des broyeuses de poissons.
Juillet, la saison des amours est donc officiellement ouverte.
Oui, c'est pourquoi NT1 va lancer un nouveau jeu de rencontre ce soir à 18h30. Ça s'appelle 10 couples parfaits. Alors, c'est un peu inspiré de Marié au premier regard sur M6. Vous savez, cette émission où des inconnus se rencontraient sur la base de tests scientifiques censés démontrer leur compatibilité. Ça avait moyennement marché, effectivement, pour ce qui est de la compatibilité. Même principe pour ce jeu. Hein. Il y a 20 candidats qui forment théoriquement 10 couples parfaits. C'est à eux de trouver leur alter ego. On ne leur dit pas qui est leur prétendue âme sœur. Petit extrait.
C'est la plus belle, hein. On est d'accord.
Oh là là.
Non, mais c'est pas. Mais je te dis pas ça, je m'en fous de te dire.
Non, moi je pense que par contre je suis très différente, tu vois.
T'es la fille la plus difficile.
Ça t'excite, genre, t'aimes le challenge?
Elle est faite pour moi, mais je pense qu'elle le sait pas encore. Va falloir que je lui dise.
T'es pas allé faire tes petites longueurs?
Ilan, il me plaît pas du tout, du tout. Non.
Je le vois un peu comme un boulet, quoi.
Voilà, donc on peut le dire, il y a déjà un couple qui se trouve dès l'épisode de ce soir, ça va très bien marcher. Hein. En tout cas, je suis rassuré au sujet d'un autre duo amoureux des anges de la télé-réalité cette fois. Vendredi, c'était le tout dernier épisode, vous savez, des anges. Et on en a deux qui se sont réconciliés in extremis. Il faut dire qu'ils ont eu l'intelligence de mettre un peu d'eau dans leur vin.
Je suis super content parce qu'avec Hélène, on se réconcilie. Au final, voilà, chacun met de l'eau dans son verre.
C'est bien aussi, de l'eau dans son verre. C'est même meilleur pour la santé de ne boire que de l'eau, en fait. Hein. Ouais, ouais. Et pendant ce temps-là, c'est une ex-star de cette émission, une ex-star des anges qui était, quant à elle, sur le plateau d'Arthur sur TF1 vendredi. Nabila était dans Vendredi, tout est permis. Sauf qu'avec elle, c'était plutôt Vendredi, j'ai rien compris.
Toi, Nabila, ton texte, il faudra que tu combles les trous avec la lettre F.
Je comprends rien. C'est quoi ma lettre?
F.
C'est un temps extrêmement philosophique sur l'ensemble du pays.
Philosophique avec un F, mais bien sûr.
Ça,
c'est la philo pour les nuls.
Ouais, je pense qu'elle fait exprès.
Elle fait exprès, non?
Ça reste à souhaiter.
Dans ce cas-là, elle est très forte.
Et on termine avec l'événement politique du jour.
C'est le congrès de Versailles. Emmanuel Macron réunit députés et sénateurs. Jean Lassalle sera donc de la partie. Ce gentil Jean qui a voulu arranger tout le monde l'autre jour à l'Assemblée nationale. Ça bloquait un peu au niveau des débats, ça n'avançait pas. Alors du coup, il a proposé sa candidature à la vice-présidence de l'Assemblée.
Monsieur le Président,
il m'est apparu, une idée m'est venue subitement. Afin d'essayer de trouver une solution, je présente aussi ma candidature.
Ah, il lâche rien, Jeannot, il la veut sa présidence. Hein. Prochaine cible, la présidence du club des chiffres et des lettres. C'est que tu vas arriver avec ça. Qui sait ?
C'est horrible parce qu'avec son accent, du coup, les gens ne le prennent pas au sérieux.
On n'arrive jamais à le prendre.
Il
fait en sorte de ne pas être pris au sérieux non plus.
Revalorisons les accents.
Mais je trouve, moi, c'est bien d'avoir.
Vous êtes un peu notre Jean Lassalle, Patrice Carmon.
Mais je vous la tue.
Patrice, vous avez gommé votre accent en palois. Bon, on va retrouver Monica Bellucci, VDB, Régis Maillot et toute l'équipe dans un instant. RTL, il est midi.
Vous écoutez RTL.
RTL, il est 12h04. C'est la suite d'À la bonne heure avec vous, Stéphane Bern.
Absolument. Merci beaucoup, Olivia Loret. Et nous rejoignons tout de suite Monica Bellucci, qui est avec nous dans le studio pour Elle n'est pas très loin. On the Milky Road de Emir Kusturica, qui sort le 12 juillet. Ce qui est incroyable, c'est que vous vivez en partie à Paris. Vous êtes une actrice italienne, mais vous vivez à Paris. Et vous tournez à l'international. En fait, vous tournez assez peu en France.
Très peu. Très, très peu. En effet, c'est incroyable parce que c'est vrai, je vis ici, je travaille partout et j'ai décidé de vivre à Paris parce que j'aime Paris. Mais oui. Mon parcours artistique est vraiment international. Les dernières années, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui n'étaient pas français.
Oui.
Mais j'ai décidé quand même d'être en France.
Mais oui, c'est
incroyable.
Mais peut-être ça va devenir.
C'est l'amour pour ce pays. Voilà. Je ne peux pas expliquer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment. Du coup, c'est même pas les travaux en effet qui m'amènent ici. C'est l'amour pour la France.
Et une autre chose, c'est que vous passez d'un genre à un autre. C'est-à-dire, vous êtes insaisissable.
Oui,
c'est
vrai.
Il y a eu
c'est
à la vrai. Fois Astérix, évidemment, James Bond, La Passion.
Oui, disons
que
mon parcours a été toujours un mixte de films d'auteurs un peu particuliers, intimistes, comme Philippe Garrel, comme Gaspard Noé, et après des films italiens comme Malena ou des films américains. Voilà, c'était toujours un mixte, mais parce que je crois que, autant que comédienne italienne, pour avoir un parcours international, les processus, c'était de voyager moins. Parce qu'avant, c'était les films italiens qui voyageaient dans le monde entier.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, toutes les grandes actrices italiennes, elles étaient connues à travers des films qui faisaient les tours du monde. Et pour moi, c'était... Alors que c'était une autre époque aujourd'hui, pour avoir un chemin, un parcours international, c'est nous, les comédiennes, et qu'il faut qu'on bouge. Et du coup, la France, l'Angleterre, l'Amérique...
Vous tournez partout, partout. Et alors, Emir Kusturica, vous le mettez dans quel registre ? Un film d'auteur particulier
Film d'auteur... Très particulier.
Oui, mais il est magnifique, ce film. Vraiment, il va vous plaire. 12 juillet, on va retrouver dans un instant Régis Maillot pour VDB. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Monica Bellucci. Et on va retrouver celui que vous avez annoncé, Régis Maillot, pour un best-of de VDB.
Ben oui, si la vie est une comédie italienne, celle de Stéphane Bern ferait passer les tragédies antiques pour une telenovela brésilienne. Alors, toute cette saison, nos auditeurs ont suivi avec ferveur les péripéties du prince de l'ORTF, de l'ami des puissants et des diadèmes, Sa Majesté Stéphane Bern. Eh bien, bonne nouvelle, d'ailleurs, cet été, le 29 juillet, un samedi à 18h30, vous retrouverez les meilleurs moments de cette saga sur RTL, évidemment. Et en attendant, je vous propose de retrouver en primeur un épisode qui vous donnera un petit peu ce qu'est l'essence de la vie de Stéphane Bern.
On y va. VDB, la vie de Bern.
Régis Maillot.
Ah, c'est ça.
Laissez-moi vous présenter le Bernwana, qui n'est pas une satire, mais la vie d'un satyre nommé Stéphane Bern. Bienvenue au Bernwana, la république très très monarchique de Stéphane Bern. Bande annonce. Le Bernwana, c'est avant tout la patrie de la tolérance, un pays où on aime son prochain.
Ouais.
Allez, allez, dehors les Romano. S'il vous plaît, Argent. Oh ben non, fallait mieux travailler à l'école. Qu'est-ce que vous faites, patron? Mais je mets un peu de répulsif à SDF que m'a fait livrer mon ami Robert Ménard pour éviter que ses vanupiers reviennent. Voilà, comme si on est tranquille, un bon moment. Mais vous êtes un monstre, patron. Oh, arrête de me flatter.
Flattez-moi, monseigneur.
J'essaie juste de faire mon devoir de citoyen du Benouana. Allez, j'appelle la préfecture avant que sonne la trêve hivernale. Mais le Benouana, c'est aussi un empire qui prospère sur 5 continents et fait travailler plus de 50 000 personnes. Bon, pas toujours dans le respect des conventions de Genève. Nous voici arrivés à destination, Mayo. Ma belle usine de textile du Bangladesh, que j'ai implantée grâce à mes réseaux de gauche et à l'argent suisse de Cahuzac. Nous y voilà. Mais c'est pas une usine, là, c'est une école maternelle. Oui, dans ces deux pays, les deux activités se confondent.
C'est pas possible. C'est
épouvantable.
Le Bernouana, ce sont des liens avec les plus grands démocrates de la planète. Allô, Vladimir ? C'est Stefanov. Oui, Mazeltov aussi. Écoute, je voulais te féliciter avec Mireille Mathieu. On a survolé la Crimée. Vous avez fait un travail magnifique. Oui, on se voit à l'anniversaire de Gérard Depardieu. Bisous, Vlad. Le Berwana, c'est aussi, après, une grande famille. Oui, où il y a toujours une place à table. Ou ailleurs. Qui me dérange pendant mes ablutions? C'est moi, patron, maillot. Entre, maillot, je suis dans mon bain. Viens donc me savonner le dos, les domestiques sont en congé et ne reste que le manchot. Oh. Je ne savais pas que vous alliez faire ajouter une fonction jacuzzi dans votre baignoire. J'en ai pas. Eh oui, le Berwana, ce sont des petites blagues entre collègues. Monte, maillot. Je suis dans le donjon. C'est quoi ces cris, patron? Ce sont des amis venus passer le week-end. Dites-moi, patron, la petite personne toute maigre qui pleure attachée au radiateur, c'est Eric Dussard? Ben oui.
Je pleure pas.
Ben pourquoi il pleure? Ben je lui ai dit que j'allais raccourcir sa chronique télé de 10 secondes.
Ah, c'est la chute est différente de la dernière fois. C'était le même papier, mais c'était pas la même chute.
Même pendant, il peut pas s'en empêcher.
C'est là, ça change. Voilà.
Le Berwana, c'est aussi le paradis du sexe. Parfois dégoûtant, souvent payant. Allez, maillot, ne te fais pas prier. Mais j'ai pas envie, patron. Allez, maillot, c'est la fin du carême, régale-toi. Je t'ai apporté ce casse-croûte spécialement pour toi. Mais j'ai pas envie de me taper Joël Goron. Mais enfin, je l'ai lavé ce matin.
Oh, non.
Qu'est-ce qui te dérange, la différence d'âge? Non, ce qui me dérange, c'est qu'elle dort. Et alors, ça n'a pas gêné Patrice Carmouze? Bref, le Berwana, c'est un peu tout ça à la fois, et c'est pour ça qu'on aime tous le Berwana.
Merci beaucoup, Régis Maillot.
Vous en prie, c'est toujours un plaisir de faire plaisir.
Oui, exactement.
Vous écoutez RTL.
Honneur, Stéphane Bern.
Alors, puisque nous avons la chance d'avoir Monica Bellucci, même si elle parle très bien le serbe maintenant grâce à Emir Kusturica, il en a fait une femme serbe d'origine italienne. Alors, on va faire une interview Italie. Y a plein de phrases qu'on dit sur l'Italie. Vous me dites si vous êtes d'accord et vous pouvez ajouter des choses. On dit, Cocteau disait, les Italiens sont des Français de bonne humeur.
Ah, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai.
Donc en fait,
les Français,
Italien,
sont des Italiens nerveux.
Les Italiens sont jamais de mauvaise humeur.
Bah si, si.
Ça peut
arriver. Mais devant, il faut attention à pas l'être. Il y a toujours cette notion de paraître bien.
La bella figura. Oui.
La bella figura, la belle paese.
Une politesse.
Oui. L'Italie est faite pour séjourner, la France pour y vivre. C'est juste ça.
Mais c'est ce qu'elle fait un peu.
Charles Quint, qui était...
Qui n'est pas le dernier.
Il disait... Yo hablo espagnol, je parle espagnol à Dieu. Italien aux femmes, français aux hommes et allemand à mon cheval.
Radio cliché.com.
Bah, Charles Quint, quand même.
Tout Charles Quint qu'il est, c'est quand même un petit peu cliché.
Un homme qui ne connaît pas l'Italie ni les Italiennes a quelque chose de barbare.
Ah, c'est joli, ça.
Bah, les Italiennes, on ne les connaît jamais vraiment.
On met du temps à les connaître.
Et encore.
L'exclamation.
Moi, il y a une chose, je crois que c'est un humoriste qui a dit ça, mais c'est pas possible. Vous savez, la différence entre un Italien et un Français.
Ah, c'est joli.
C'est qu'en mangeant des spaghettis, l'Italien peut penser à autre chose. Mais je peux vous dire que moi, si je mange des spaghettis à la tomate, je suis obligé de ne penser qu'à ça.
Ou alors de changer de chemise. Oui.
Mais il doit y avoir une méthode pour manger proprement des pâtes.
La cuillère. Non, justement, ils n'ont pas de cuillère.
Jamais
ils n'ont
pas élégant, mais pas la cuillère. Il y a des gens qui le font.
En Italie,
c'est pas élégant.
C'est pas élégant. Ouais, en Italie, on n'a pas de cuillère.
Non, c'est la fourchette. La fourchette. Ensemble.
Vous savez qu'en napolitain, le mot travailler n'existe pas. On dit fatigare.
C'est drôle, ça.
C'est mignon.
Est-ce que pour être gay comme un Italien, un homme doit savoir qu'il aura de l'amour et du vin?
Mais sans l'amour et le vin, c'est triste. Hein.
Oui, sans l'amour et le vin, oui. Est-ce que, je me posais toujours une question, est-ce que Capri, c'est vraiment fait?
On est passé de Charles Quint quand même à Hervé Villa.
Et dire que c'était la ville de premier amour.
Premier amour, oui.
Oui, mais moi, je crois bien que j'y retournerai un jour.
Non, mais je crois qu'il y a mieux maintenant. Il y a là, à côté... À côté de Capri.
À Amalfi, un peu plus
loin. Non, un autre endroit. Bref.
Les Cinque Terre.
La côte Amalfitaine.
La côte Amalfitaine, c'est joli. Oui. Mais toute l'Italie est belle.
Belle.
Et la France aussi.
Même les Pouilles.
La France aussi.
Les Pouilles, oui.
Mais plein les Pouilles.
Ça sonne mal.
Est-ce qu'il y a un truc, ça sonne pas bien, les Pouilles.
Eh bien, voilà, elle a bien répondu à l'interview Italie. Allô. Ce qui nous reste maintenant, c'est le quiz musical de Patrice Carmouze.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, je vous rappelle que nous jouons pour faire gagner à nos auditeurs un séjour
rose.
Dans les Flamants Roses.
Enfin, pas dans les Flamants Roses, sinon c'est excité
à
Patrice.
C'est l'hôtel spa qui s'appelle les Flamants Roses.
Courir vite, le Flamant.
C'est l'hôtel où vous passez votre week-end sur une jambe.
Sur une jambe.
À Canet en Roussillon.
Voilà. Faire les Canets.
Alors,
Pink Floyd.
Pink Floyd. Vous avez compris l'astuce.
Quelle référence.
Et en plus, monnaie, puisque c'est offert.
C'est cher.
C'est riche.
Et donc,
alors
vous jouez. Monica et moi, nous jouons pour Catherine. Le reste du monde joue pour Aurore. C'est Aurore, parti.
Et ce sont des tubes, tubes d'été, donc faciles à trouver. On commence par vous deux. Il faut trouver qui chante.
Oui.
Les jolies colonies.
Je pense pas que ça soit dans le spectre musical.
On appelle ça tube de l'été, alors.
C'est un tube de l'été.
Ah bon, ouais. Vous auriez plus chance.
Les chansons. En plus, ça se passe l'été, les colonies.
Les chansons italiennes.
Pendant ce temps-là, il triche, hein, Patrice.
Non.
Bah non, parce que ça, c'est pas la bonne feuille. Alors, à vous, le reste du monde.
Andalouse. Mon fils adore.
On fait des sauts dans le temps.
C'est normal.
Un partout. Alors là, on peut donner juste le titre de la chanson, ça suffit.
Ah oui, vos filles aimaient bien.
Ouais. Los del Rio.
Il y avait une petite chorégraphique assez ridicule.
Los del Rio.
Et la danse.
Ah bah, à Paros, c'est là.
Je veux dire, ils sont bien.
Allez, faites bien.
Allez, les amis, on va danser maintenant. Je viens de faire construire un dancing de 500 mètres carrés.
On va écouter la Macarena, mais on aurait pu aussi écouter ça, c'est pour ça.
La lambada.
Calma.
C'était plus chaud, la lambada. Il y avait un côté tactile.
Oui, il frottait.
Oui, on frottait.
C'était 90.
De partout.
Explosion de grossesse derrière.
De partout. Ah oui. Ouais. Ouais. Ça, c'est peut-être plus compliqué.
La grosse se fait pas par hasard.
De quoi,
les gens, ils veulent des enfants.
Non, ils veulent pas souvent. Je veux dire, l'alcool, une macarena et hop. Et voilà.
Ils ont raté leur vie.
Et ben, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il y a eu des générations de Kevin.
Ouais. Regardez les naissances au mois de mars.
Ouais. C'est vrai. Bah oui, il y a plus de.
Oui. L'été d'avant.
Alors, à vous maintenant.
C'est Ricky Martin.
Oui,
Martin. Il a fait semblant d'hésiter, c'est symptomatique de sa tricherie, parce qu'il avait regardé sur la feuille.
Oui,
avec...
non.
Il y a des chances.
Oui.
Mais bon. Non, pas mal.
Mais pourquoi?
Non,
il sait
tout.
Il sait tout.
Dès lors qu'il a lu, il sait tout.
Ne l'encouragez pas, Monica.
S'il est validé par Monica,
on s'incline.
3-2.
Bon, ça, c'est facile, évidemment.
Indochine.
L'aventurier.
L'aventurier, ouais.
Ah, Patrice, donnez-lui la faille, ça ira plus vite. Hein. Tricher, là.
Attention, Monica, ça vous connaissez.
Ah oui.
Rihanna, bravo.
4-3.
Ah,
c'est caliente, là, quand même. Laurent
Boulzy.
Rock Collection.
C'est un truc d'été, hein.
Oui,
absolument. 77.
4 partout.
Alors, attention, ça aussi, c'est un tube d'été. Mon ami Julien Doré.
Alors ça c'est le lac. L'été 2015, l'été 2016, l'été 2017. Et en 2018, vous aurez la même.
J'adore ce que fait Julien Doré.
Ouais. En même temps, quand on en aime une, on les aime tous, c'est ça qui est bien.
Alors attention, si le reste du monde égalise là, on va jouer ensemble après. Hein, alors.
Arnaud,
c'est un coup bas, Patrice Carmouze.
Les filles du bord de mer.
Le créateur.
Ah, la Adamo.
C'est Adamo, ouais.
Oui.
Comme ça, avec Eric, on est exclu là.
Alors attention, alors la challenge, donc tout le monde répond et le plus rapide fait gagner l'auditeur pour lequel il joue. 1, 2, 3.
C'est le reste du monde. C'est l'un des trois.
Baba, il a dit Hôtel Californie en même temps, on va faire un autre.
Ah, ils ont dit Eagles.
Attention, un autre challenge.
Patrick
Arnaud. Là, c'est le reste du monde.
Ouais, ouais.
Ok, c'est donc Aurore. Je quitte cette émission. Non, c'était bien, mais c'était juste après.
Et ben voilà, c'était.
C'est donc Aurore.
Sur le film. Aurore.
Très bien.
Qui part ? C'est un joli prénom, Aurore.
Bah oui.
Si, comme moi, vous aimez Monica Bellucci, vous allez la trouver incroyable dans le film d'Emir Kusturica avec Emir Kusturica, On the Milky Road, qui sort le 12 juillet prochain. Voilà, c'est un formidable film. En tout cas, allez le voir, vraiment. Merci Monica, c'est toujours une joie de vous accueillir.
Merci,
vous êtes toujours la bienvenue.
Et chaque fois
vous nous surprenez, c'est chaque fois un rôle différent. Donc, c'est pas toujours les mêmes chansons, les mêmes... Voilà, c'est chaque fois un rôle qui vous met en danger. Et bien, ça vous va bien. On va retrouver demain Pierre Jolivet et Roche Dizem pour
au feu, les pompiers.
Oui, on va parler des pompiers.
Oui,
les hommes du feu,
Les hommes du feu, ça s'appelle.
Merci à tous d'avoir suivi RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.